Je vais présenter maintenant le conférencier de ce soir. Lionel Fontanier est né en 1958. Il est économiste. Il est directeur actuellement du Centre d'études prospectives et d'information internationale. Pour son parcours, il est agrégé des universités en sciences économiques, docteur en sciences économiques Université Paris 1, professeur Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Pour sa spécialité, Lionel Fontanier est spécialiste des questions commerciales et de l'Organisation mondiale du commerce. Il analyse les performances commerciales dans le cadre de la mondialisation. Pour sa bibliographie, il a écrit de nombreux articles dans des revues nationales et internationales. Il est fondateur et directeur de la collection Économie aux éditions Vibert. Il est membre des comités de rédaction de plusieurs revues, par exemple Revue économique 1996-2002 et Économie et prévision 2000. Il a obtenu le prix du meilleur article 1999 dans Open Economy Review. Il a rédigé aussi un rapport pour le Parlement européen en 2001, The Reform of Taxation in Europe, Member State. Voilà, je vais lui laisser la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Merci.
Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. En septembre prochain, très exactement du 10 au 14, l'Organisation mondiale du commerce, la fameuse OMC, va réunir les ministres des États membres à Cancun. Vous en avez tous entendu parler. Ceci fait suite à la ministérielle de Doha, puisque c'est comme ceci que nous appelons ces réunions, des ministérielles, qui avaient eu lieu en novembre 2001 et qui avaient lancé ce cycle du développement. Et cette réunion de Doha avait en fait marqué un renouveau des négociations multilatérales après l'échec très médiatisé de la réunion de Seattle en décembre 1999. Il est inutile évidemment de revenir sur ces différents événements qui sont bien connus, mais par contre il est utile de rappeler d'un mot le contexte dans lequel ces réunions se situent. Naturellement, la contestation par la société civile du mouvement de mondialisation est au cœur de la discussion de ce soir. Cette contestation remet en cause la légitimité de cette Organisation mondiale du commerce, OMC dans la suite, et cette OMC, c'est en fait, et on l'oublie souvent, la pièce manquante du dispositif multilatéral qui avait été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que le commerce international, jusqu'à la création de l'OMC en 1995, était régi par un accord international mis en œuvre par un secrétariat qui s'appelait le GATT, mais l'organisation elle-même n'existait pas. Elle a été créée à l'issue des accords de Marrakech de 1994. Et rappelons que s'il n'y avait pas d'Organisation mondiale du commerce, c'est tout simplement que les États-Unis n'en avaient pas voulu. C'était dans la charte de La Havane qui n'avait pas eu de suite. Cette contestation de la société civile porte sur la question des pays en développement. Elle porte aussi sur les effets sur la libéralisation, les effets de la libéralisation sur les pays du Nord, et enfin les effets supposés ou réels sur la culture et d'autres domaines connexes. Alors, d'un certain point de vue, cette contestation, que je ne rappelle pas plus, est injuste. Elle est injuste parce que, je viens de le dire, l'OMC est aujourd'hui le cadre multilatéral relatif aux échanges de biens et services qui vise précisément à encadrer les échanges, qui vise à éviter les pratiques déloyales, qui vise à régler les conflits commerciaux, qui vise à éloigner les risques de l'unilatéralisme que nous redoutons tous. Et enfin, qui vise à organiser un meilleur accès au marché, notamment pour les exportations des pays en voie de développement. Mais l'OMC n'est pas seulement ce corpus de règles. L'OMC, c'est aussi le moteur de la libéralisation, moteur dont on craint naturellement les excès. On craint que ce moteur s'emballe. On craint les cycles de négociation, ces fameux rounds qui sont récurrents et qui vont toujours plus loin dans la négociation. Vous savez qu'après avoir libéralisé, mais nous nuancerons ce point dans un moment, après avoir libéralisé les échanges de biens, de marchandises, l'OMC s'intéresse aujourd'hui aux services. L'OMC s'intéresse aujourd'hui à l'investissement direct. Et donc l'OMC, au-delà des échanges de biens, est amenée à s'intéresser à des sujets connexes, qui sont des sujets particulièrement sensibles. C'est toute la question des thèmes connus sous l'appellation « commerce et ». Donc commerce et environnement, commerce et investissement, commerce et concurrence. Tous ces thèmes qui correspondent à ce qu'il est convenu d'appeler un agenda large de négociation sont les thèmes qui, en fait, alimentent le plus la contestation. Il s'agit donc de voir dans quelle mesure des politiques qui s'intéressent à un autre domaine que le commerce peuvent entraîner des distorsions dans les échanges. Et ici, la difficulté est double. On va toucher aux systèmes de préférences collectives qui peuvent être irréconciliables et en même temps, on va créer de facto une hiérarchie de normes. Je vais revenir sur ce point pour l'éclairer maintenant par un exemple. Cet exemple, c'est celui du thon et des dauphins. Vous en avez tous entendu parler. La question est la suivante. Peut-on, les États-Unis peuvent-ils en l'occurrence, interdire l'importation de thon pêché avec des filets qui tuent les dauphins ? Ce cas est très ancien puisqu'il date de 1991. La réponse est non. La réponse est non puisque les États-Unis ont perdu. Il s'agit ici d'une réponse très juridique, naturellement, qui porte non pas sur le fond du dossier, est-ce qu'il faut protéger les dauphins, nous en sommes tous d'accord, mais sur la forme de la protection et sur les arguments utilisés par les États-Unis. En fait, une lecture attentive des textes de l'OMC montrerait que restreindre le commerce pour protéger l'environnement n'est pas interdit. C'est simplement soumis à tout un ensemble de règles. Mais cette présentation des choses est en général mal comprise dans l'opinion publique. Elle est mal comprise dans l'opinion publique qui y voit une remise en cause, précisément, du système de préférence collective. Le fait d'aimer les dauphins fait partie du système de préférence collectif américain et probablement d'une autre également. La hiérarchie des normes qui apparaît alors, c'est le terme que je voulais expliquer, la hiérarchie des normes, c'est que la liberté des échanges prime sur la préservation des espèces sauvages. Et là est la question. C'est en tout cas comme cela que l'opinion publique perçoit cette question et c'est pour cela que l'OMC est contestée. Remarquons au passage que ce cas n'était pas un cas traité à l'OMC puisqu'il a été traité en 91 par le GATT. En réalité, donc, le GATT, puisqu'on est en 91, s'oppose ici à l'extraterritorialité des lois américaines. Et si je présente les choses comme ça, vous trouvez peut-être que le GATT a fait bien son travail. Les États-Unis ne peuvent pas interdire l'importation de thon mexicain au prétexte que les producteurs mexicains ne respectent pas les lois américaines. Nous en sommes tous d'accord. Donc vous voyez que d'un point de vue juridique, le cas est très difficile. Et si on pousse le raisonnement un petit peu plus loin, et si on acceptait la position américaine, cela voudrait dire que la France, ou l'Union européenne de façon plus générale, la France pourrait interdire l'importation de textiles habillement en provenance des pays qui ne respectent pas nos réglementations sociales. On pourrait interdire l'importation de textiles habillement des pays qui n'ont pas de salaire minimum, par exemple. Donc, tout ceci n'est pas possible parce que les règles ne le permettent pas. Et l'on voit bien que si l'on relâchait certaines de ces règles, ce serait la porte ouverte à des comportements potentiellement fortement protectionnistes, ce dont les pays membres de l'OMC ne veulent pas, en particulier, évidemment, les pays en voie de développement. Par contre, pour conclure cet exemple, ce que vous savez, c'est que l'OMC, enfin le GATT, en l'occurrence à l'époque, avait autorisé les États-Unis à apposer le label Dolphin Safe, hein, donc pêché sans dauphin, aux États-Unis sur les boîtes de thon. Et pour finir, ce cas ne fait pas jurisprudence, contrairement à ce que tout le monde pense, tout simplement puisque les États-Unis avaient refusé la décision du panel et que, à l'époque, dans le GATT, les décisions du panel n'avaient pas de valeur exécutoire si elles étaient refusées par le pays qui était concerné, à la différence de ce qui se passe aujourd'hui par l'OMC. J'ai fini maintenant de parler de droit, très mal évidemment, puisque je suis économiste et non juriste, mais c'était simplement pour vous faire comprendre ce qu'était la hiérarchie des normes. J'aurais pu vous présenter un autre exemple, celui des médicaments, par rapport à la question de la propriété intellectuelle, mais je ne l'ai pas fait puisque c'est tous les jours dans les journaux. Enfin, même s'il s'agit d'une revendication tout à fait contradictoire avec la revendication précédente, il est souvent reproché par la société civile à l'OMC de ne pas aborder certains sujets. En premier lieu, le social. Donc d'un certain côté, on reproche à l'OMC d'aborder trop de sujets et en même temps de ne pas en aborder d'autres, comme le social. Et là, on revient au cas précédent. Peut-on interdire ou freiner les importations en provenance de pays à très bas salaires, pays qui, à l'aune de nos propres systèmes de valeurs, exploitent leur main-d'œuvre ? Est-ce qu'on a le droit d'interdire l'importation de biens en provenance de ces pays ? La réponse est non. En réalité, l'OMC se refuse à aborder ce sujet autrement que par le biais du travail forcé et renvoie, pour le reste, à l'Organisation internationale du travail. Alors que ressortir finalement de cette perception de la société civile, au-delà des éventuelles contradictions que j'ai indiquées ? Eh bien, la société civile, globalement, me semble-t-il, a deux idées. La première idée, c'est que les bénéfices de l'ouverture internationale, bénéfices en termes d'efficacité, en termes de multiplication des opportunités pour les consommateurs, en termes d'accès à la connaissance, en termes de promotion de la concurrence, tous ces bénéfices supposés évoqués par les économistes ont été très exagérés par les économistes. C'est la première idée de la société civile. La deuxième idée, c'est qu'au contraire, les économistes n'ont pas suffisamment pris en compte les coûts. Il y a des coûts associés à l'ouverture internationale. Il y a des coûts sociaux, bien sûr, j'y reviendrai. Il y a des coûts environnementaux. Il peut y avoir des coûts culturels, éventuellement. Et donc, ces coûts ont peut-être été sous-estimés par les économistes. Tel est le sens de la contestation, si on va au bout du raisonnement. Le diagnostic des économistes, cela ne vous surprendra pas, est évidemment un petit peu différent. Ce diagnostic tient en quatre points, mais il est beaucoup moins caricatural que ce que l'on pense généralement. Premier point, sur lequel la plupart des économistes sont d'accord. J'utilise cette précaution sémantique pour qu'un collègue dans la salle ne me dise pas qu'il n'est pas d'accord après mon exposé. Premier point, l'ouverture est préférable. On est presque tous d'accord là-dessus. L'ouverture est préférable. Le libre-échange permet tout d'abord d'accéder à une structure de prix plus favorable. Les prix de libre-échange sont globalement plus favorables que les prix d'autarcie. C'est un tout petit peu technique, mais l'on pourrait dire aussi qu'en libre-échange, c'est plutôt globalement moins cher. Donc c'est avantageux. Deuxième point, ces mouvements des prix qui sont associés à l'ouverture vont initier une réallocation des ressources dans les emplois qui sont les plus efficaces. Il se trouve que dans chaque économie, un certain type de ressources va avoir une efficacité différente dans un certain type d'emploi. Et donc, ouvrir l'économie, c'est permettre la réallocation des ressources vers les emplois les plus efficaces. C'est bien ça, exporter, importer, ça veut dire tout simplement arrêter de faire ce qu'on faisait mal, on l'importe, et faire plus ce qu'on faisait mieux, c'est ce qu'on exporte. Ça, c'est ce que nous dit la théorie classique du commerce international, et la théorie moderne du commerce international dit des choses beaucoup plus astucieuses et beaucoup plus justes encore. Elle dit qu'il faut prendre en compte la réalisation d'économies d'échelle. Il existe dans la production des rendements croissants. Plus vous produisez, moins c'est cher. C'est ça, les économies d'échelle. Eh bien, évidemment, plus vous avez un grand marché ouvert par vos exportations, plus vous pouvez produire et plus vous produisez dans des conditions avantageuses. C'est la première idée importante. La deuxième idée importante, c'est que l'ouverture donne accès à une très grande diversité des biens. Les consommateurs, les producteurs ont accès à une beaucoup plus grande diversité des biens de consommation ou des productions intermédiaires ou des biens d'équipement lorsque l'économie est ouverte. Un bon exemple en a été donné par l'ouverture des PECO, des pays d'Europe centrale et orientale, qui, lorsqu'ils ont ouvert leur économie, ont donné la possibilité à leurs consommateurs d'acheter une très grande variété de biens là où il y avait peu de variétés avant, et ça s'est traduit par des importations massives, dans un premier temps, de biens de consommation, montrant bien qu'il y avait une demande des consommateurs pour cet élément de variété. Donc, première idée des économistes, pour ne pas être long, l'ouverture est préférable. Deuxième idée des économistes, l'ouverture comporte des coûts. Ces coûts, c'est d'abord des coûts d'ajustement transitoires. Si on doit fermer l'industrie textile en France pour fabriquer des Airbus, puisque c'est en gros ça l'histoire, eh bien, il va falloir s'occuper des ouvriers de l'industrie textile qui n'ont pas forcément la bonne qualification et qui devront peut-être attendre une génération pour l'avoir. C'est peut-être leurs enfants qui auront la bonne qualification. Donc il y a des coûts d'ajustement transitoire et le transitoire peut durer longtemps. Entre parenthèses, c'est pour ça qu'on a protégé le textile depuis 35 ans. La redistribution des revenus, c'est un deuxième point à prendre en compte. Cette redistribution des revenus, elle se traduit en termes de gagnants et de perdants. Mécaniquement, à l'ouverture, il y a des individus qui vont gagner ou des catégories sociales qui vont gagner et des catégories sociales qui vont perdre. On comprend bien, dans mon exemple, où on abandonne la production de textiles pour se spécialiser dans les Airbus, qu'il ne fait pas bon être ouvrier non qualifié. Eh bien, c'est très exactement ça que nous avons. Cette redistribution des revenus, c'est des gagnants et des perdants du fait de l'ouverture. Ce que montre la théorie, ce que montrent tous les calculs, c'est que les gains des gagnants sont supérieurs aux pertes des perdants. Donc ce que dit l'économiste en général, c'est que ça autorise une redistribution. Encore faut-il en avoir le courage politique. Et ce que dit aussi l'économiste, c'est qu'il y a des gains dynamiques qui ne se limitent pas aux gains statiques. Et ces gains dynamiques sont très largement supérieurs aux pertes qui, elles, sont généralement des pertes statiques. Et donc, cela veut dire qu'il faut avoir un calendrier de libéralisation qui est un calendrier progressif pour amortir un petit peu les choses. Vous voyez donc que la position des économistes est moins caricaturale que ce qu'on dit souvent. Troisième idée des économistes, tous les pays qui sont ouverts n'ont pourtant pas participé à ce que l'on conviendra d'appeler ensemble le grand banquet de la croissance mondiale. Il y a des pays qui en ont profité, il y a des pays qui n'en ont pas profité. Les inégalités internationales s'ajoutent aux inégalités internes lors de l'ouverture. Ce qui est tout à fait flagrant, c'est qu'un certain nombre de pays en voie de développement ont émergé, les fameux pays émergents, et d'autres n'ont pas émergé, sont restés dans la pauvreté, voire se sont enfoncés dans la pauvreté. Ce sont les pays les moins avancés. Et donc avec l'ouverture des économies, on a eu en même temps une ouverture de l'éventail des revenus au niveau international, avec des riches qui sont devenus beaucoup plus riches et des pauvres qui ont eu du mal à sortir de la pauvreté. Et il y a quelques pays qui se sont même enfoncés dans la pauvreté. Mais là, on considère en général que ce n'est pas l'ouverture qui est en cause, mais les guerres civiles ou ce genre de choses. Donc, pour parler de façon un petit peu plus technique, on a maintenant, au niveau international, une distribution des revenus qui est bimodale. C'est-à-dire, il y a les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. C'était moins vrai avant le phénomène de globalisation. En même temps, le revenu moyen de tout le monde a augmenté quand même. Quatrième idée des économistes, l'encadrement de la globalisation est nécessaire, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. L'encadrement de la globalisation est nécessaire, et donc il faut mettre en place un corpus de règles. Ce corpus de règles va permettre d'éviter les conflits commerciaux, va permettre d'éviter que les pays les plus forts imposent leurs lois aux pays qui sont moins forts. La difficulté, c'est que lorsqu'on définit un corpus de règles, évidemment, cela pose de fait une hiérarchie des normes, puisque ces règles vont devoir être comparées à d'autres règles qui existent dans d'autres domaines, le social, l'environnemental, etc. Tels sont donc les enjeux qui sont généralement évoqués par rapport au cycle de Doha, par la société civile. Mais je peux prendre le pari devant vous que Cancun n'apportera probablement de réponse satisfaisante à aucune de ces réponses qui sont posées par, à aucune de ces questions qui sont posées par la société civile. Tout simplement parce que ces questions sont trop générales et ne peuvent pas être traitées dans le cadre institutionnel actuel. L'objet de ce dont je vais vous parler maintenant, c'est donc de m'intéresser aux sujets sur lesquels des progrès peuvent être faits, des progrès rapides sont possibles, dans le cadre institutionnel actuel de l'OMC. Et mon exposé aura deux parties. Dans une première partie, je regarderai la question de la libéralisation des échanges et donc de l'état des lieux. Et je vous montrerai que cette libéralisation des échanges est un processus inachevé, ce qui justifie un nouveau cycle, ce qui justifie Cancun. Et dans une deuxième partie, je vous montrerai quelle est l'ampleur des gains à attendre de progrès en matière de libéralisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut gagner en matière de bien-être, en matière de commerce international, mais je n'associe pas directement ces deux éléments. Que peut-on gagner si l'on fait des progrès importants à Cancun? Est-ce qu'on peut chiffrer ça? Eh bien oui, on peut chiffrer ça, ce sera ma deuxième partie. Donc première partie de cet exposé, la libéralisation est un processus inachevé. Alors on peut mesurer ceci d'abord de façon indirecte. Comment fait-on pour mesurer ceci de façon indirecte? La première possibilité consiste à comparer le niveau d'échange qui est observé, le niveau d'échange internationaux qui est observé, avec le niveau d'échange qui est prédit par la théorie et qui est prédit d'une certaine façon par les caractéristiques des pays observés. Vous connaissez la théorie, vous connaissez les caractéristiques des pays, vous savez que les échanges devraient faire à peu près tel volume. Et vous comparez avec les échanges observés, et la différence entre les deux vous donne un déficit d'échange. Et ce déficit d'échange s'explique notamment par le protectionnisme. Une deuxième possibilité généralement utilisée, c'est les écarts de prix. Vous regardez les prix à l'intérieur des économies avec les prix mondiaux. Et l'écart entre les deux, une fois que vous avez corrigé des coûts de transport, des taxes et de quelques éléments techniques sans importance ici, donc l'écart entre le prix interne et le prix externe, c'est finalement une mesure de la protection. Donc quand on compare les échanges prédits avec les échanges observés, eh bien c'est la meilleure méthode parmi les deux. Les deux méthodes sont utilisables, mais la première des deux est préférable. Et ce que l'on voit à ce moment-là, c'est qu'en réalité, les régions qui appartiennent à des pays différents, disons l'Aquitaine et la Galice, vont échanger beaucoup moins, toutes choses égales par ailleurs, que des régions qui appartiennent à un même pays et qui auraient la même taille économique et qui seraient séparées par la même distance géographique. Donc à l'intérieur d'un pays, les régions entre elles, toutes choses égales par ailleurs, échangent beaucoup plus que si c'était des régions qui appartenaient à des pays différents. Donc il y a bien un déficit d'échange quelque part, et ce déficit d'échange est un des puzzles très importants pour la théorie économique. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'effet frontière. En quoi l'existence d'une frontière physique réduit les échanges. Eh bien, vous serez surpris d'apprendre que même en Europe, même au sein du marché unique, supposé très intégré, des effets frontières continuent à exister. Ce qui prouve qu'il n'y a pas uniquement de la protection dans ce déficit d'échange. Il y a aussi des différences de goût. Vous ne ramènerez jamais les goûts allemands en matière de fromage au goût français. Et donc, fatalement, vous aurez un déficit d'échange de fromage. Les différences de langue comptent aussi. Les différences monétaires comptaient lorsqu'il n'y avait pas l'union monétaire. L'existence de réseaux de distribution spécialisés dans chacun des pays peut compter aussi. Mais quand vous refaites le même type de calcul au niveau international, eh bien, vous avez tout ça plus le protectionnisme. Et on trouve que les effets frontières de l'Europe vis-à-vis du reste du monde sont beaucoup plus grands que les effets frontières à l'intérieur de l'Europe. La différence, c'est une mesure du protectionnisme. Donc, et j'en terminerai par là, il existe un déficit d'échange au niveau international et ce déficit révèle l'existence d'une protection. Cette protection peut être de différentes natures. Elle peut être tarifaire, c'est-à-dire des droits de douane. Je dirais tarif ou droits de douane dans la suite indifféremment, même si c'est du mauvais français. Et elle peut être non tarifaire. Par exemple, une norme, c'est quelque chose de non tarifaire. Quand vous imposez une norme, c'est une forme de protection, mais c'est non tarifaire. Et ces protections, ces distorsions aux échanges, je vais revenir dans un instant sur le terme de distorsion, ces protections, elles peuvent être à la frontière, c'est le cas d'un droit de douane, le droit de douane est prélevé à la frontière, ou elles peuvent être d'une autre nature. C'est ce qu'on appelle le soutien interne. Donc, pour parler de la PAC, puisque c'est un cas dont on a parlé récemment, eh bien, les mesures de soutien interne aux activités procèdent d'une forme de protection. Dans les deux cas, que ce soit interne, soutien interne ou à la frontière, les économistes considèrent que cette protection est une distorsion. Qu'est-ce que ça veut dire, distorsion ? Ça signifie en fait que cela nous éloigne de l'allocation économiquement optimale des ressources. Alors, ces termes sont un peu pompeux peut-être, mais c'est les termes qu'emploient les économistes. Cela nous éloigne de l'allocation optimale des ressources. Les économistes ont la faiblesse de penser qu'il existe une allocation optimale des ressources. Et donc, cela entraîne une perte économique. Alors naturellement, vous me rétorquerez, et vous aurez bien raison, que la politique économique, les décisions publiques doivent prendre en compte bien d'autres objectifs que ces simples objectifs économiques dont je viens de parler. Il faut prendre en compte des objectifs sociaux, il faut prendre en compte des objectifs environnementaux, il faut prendre en compte les préférences collectives que nous avons déjà évoquées. Mais ce que pensent les économistes, c'est que ces objectifs doivent être atteints, environnement, social, préférences collectives, ces objectifs doivent être atteints en adoptant tout d'abord l'instrument qui a l'effet le plus direct sur l'objectif. Exemple, un droit de douane protège moins les dauphins que l'interdiction des filets dérivants. L'interdiction des filets dérivants, c'est la mesure directe. Le droit de douane, c'est la mesure indirecte. Deuxièmement, deuxième grand principe, quand on adopte une politique, il faut en minimiser les effets distorsifs. De ce point de vue, pour reprendre un exemple, la politique agricole commune, elle n'est pas condamnable dans son principe. Elle n'est pas condamnable dans son principe puisque ça répond à des préférences collectives. Les Européens sont contents de voir des vaches dans les champs. On ne peut pas leur enlever ça. C'est légitime. Simplement, pour atteindre le bien-être en voyant des vaches dans les champs, il ne faut pas que les Européens désorganisent les marchés mondiaux, appauvrissent les pays exportateurs, etc. Et donc il faut limiter les effets distorsifs des mesures correspondant à d'autres objectifs que les objectifs strictement économiques. Voilà donc sur cette idée de mesure indirecte. Alors la mesure directe de la protection frontière, c'est très simple. La mesure directe, ça s'appelle la mesure de l'accès au marché. C'est quelque chose qui est très débattu aujourd'hui à l'OMC. C'est très simple dans l'idée, c'est un petit peu compliqué dans le principe. Comment ça marche ? Eh bien, il suffit tout d'abord de regarder les droits de douane. Les droits de douane, c'est tout d'abord des droits ad valorem, c'est-à-dire en pourcentage de la valeur du bien. Les droits de douane, ça peut être aussi des droits spécifiques. Le droit spécifique, c'est X dollars par cajot de tomate. D'accord ? Vous pouvez avoir aussi des droits techniques. Les droits techniques, c'est X dollars par degré d'alcool dans la bouteille. Et vous pouvez avoir des quotas tarifaires. Les quotas tarifaires, c'est un système dans lequel vous autorisez l'entrée d'une quantité limitée de produits avec un droit réduit, et le reste, ça rentre avec des droits tout à fait exorbitants, style 200%, 250%, bon, qui empêche évidemment tout commerce. Vous avez également à prendre en compte l'antidumping. Je n'insiste pas puisque tout le monde sait ce que c'est que l'antidumping. Il s'agit simplement de mettre des droits de douane compensateurs de différences de prix jugées trop grandes. Et donc, toutes ces mesures de protection existent. Toutes ces mesures de protection sont parfaitement recensées, documentées pour chaque pays dans le monde. Et toute cette information est donnée à Genève, donc à certaines organisations. Et donc, c'est très simple. Il suffit d'aller prendre les bases de données et de regarder. On se heurte toutefois à deux difficultés méthodologiques. La première difficulté méthodologique, c'est que ce sur quoi on négocie à Cancun, à Doha, ce n'est pas ce qu'on applique. C'est quelque chose qui n'est pas connu dans le public généralement. Ce sur quoi on négocie, c'est les tarifs consolidés, c'est-à-dire le niveau de tarif au-dessus duquel vous vous engagez à ne jamais remonter. Et ce qu'on applique, c'est autre chose. C'est en dessous. Et par ailleurs, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'on applique des droits de douane très différents aux différents partenaires. Parce qu'il y a des partenaires qu'on préfère, pour des raisons historiques, pour des raisons politiques. Et donc, pour prendre un exemple, comment cela se présente-t-il ? Le droit consolidé sur un produit donné va être de 10%. On ne remontera jamais au-dessus de 10%. Le droit qu'on applique, c'est 8%. Et donc, ce droit de 8% s'applique à tous les pays qui sont membres de l'OMC. Mais il se trouve qu'au sein de l'OMC, nous avons des pays qui sont plus préférés que d'autres. Et cela paye 2 ou 0, par exemple. Et donc c'est toute cette complexité qui doit être prise en compte et sur laquelle les économistes ont beaucoup travaillé ces dernières années, ce qui permet d'avoir une vision un peu plus précise des choses. Alors cette vision précise, quelle est-elle ? Elle est que le tarif moyen est bas. Si vous faites la moyenne des droits de douane, ce n'est pas grand-chose. Pour le manufacturé, pour les produits non agricoles, c'est 5%. Ça, c'est le tarif appliqué à l'ensemble des membres de l'OMC en principe. Pour le manufacturé seulement. Et maintenant, si vous ajoutez le manufacturé et l'agricole, vous arrivez autour de 12%. Une fois pondéré correctement. Donc les niveaux moyens de protection ne sont pas considérables. Vous pouvez les comparer, par exemple, aux variations des taux de change, et vous voyez que 5% ou 10%, c'est très peu. Par contre, ces chiffres sont très trompeurs. Comme toute moyenne, ils sont très trompeurs. Ce qui se passe, c'est que la dispersion des tarifs est très forte. La dispersion des tarifs est très forte et il se trouve que la distorsion dont j'ai parlé tout à l'heure varie avec le carré du tarif. Ça devient un petit peu technique, excusez-moi, mais on est obligé. La distorsion varie avec le carré du tarif, donc plus les tarifs sont dispersés, plus il y a distorsion pour un tarif moyen équivalent. Et pourquoi les tarifs sont très dispersés ? Eh bien parce qu'il existe ce qu'on appelle des pics tarifaires. Alors là, l'image est claire, on voit bien ce que c'est qu'un pic. Donc un pic tarifaire, c'est un droit de douane, quelque part, sur un produit particulier qui va être très très haut. On appelle pic tarifaire dans l'industrie un droit de douane supérieur à 15%, et dans l'agriculture, on n'a pas de définition homogène, mais on considère en général que c'est 80-85%. Donc un droit de douane de 85% dans l'agriculture, c'est déjà beaucoup. Mais on a souvent beaucoup plus, on peut avoir 200-250%, voire plus. Donc il existe de nombreux pics tarifaires qui sont à différents endroits dans les codes des douanes et qui sont très très protecteurs et très très distorsifs. Par ailleurs, ces moyennes sont très trompeuses, et c'est pour ça que j'ai donné une moyenne sans agriculture et une moyenne avec, tout simplement parce que l'agriculture, on le savait avant de venir ici ce soir, est beaucoup plus protégée naturellement. Et elle est beaucoup plus protégée, notamment parce qu'après le cycle précédent, le cycle d'Uruguay, on a retarifé, c'est-à-dire on a traduit en tarifs douaniers des obstacles qui n'étaient pas des tarifs douaniers. Auparavant, on avait par exemple l'interdiction d'importer des cerises pendant la période de fructification des cerises, bien logiquement. Eh bien, on a remplacé ça maintenant par un droit de douane de X% sur les cerises, et pour qu'il n'y ait pas d'importation de cerises pendant la période de fructification, il faut que X soit très grand. Donc, c'est la raison pour laquelle on a ces pics tarifaires. Enfin, les services sont très protégés, je n'y reviens pas, c'est un point là aussi très très connu. Alors les difficultés supplémentaires qui se posent par rapport à ce que je viens de dire, c'est que lorsque vous définissait des tarifs en termes d'équivalent, pardon, en termes de tarifs spécifiques, donc X dollars par cajot de tomate, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Il faut connaître le prix du cajot de tomate pour savoir quel est l'équivalent ad valorem de ce tarif spécifique. Et il se trouve que les pays les plus pauvres exportent des produits qui ont des prix plutôt plus bas. Et donc, toutes choses égales par ailleurs, les pays les plus pauvres, quand vous mettez des tarifs spécifiques, font face à des équivalents ad valorem plus élevés de ces mêmes tarifs spécifiques. Donc, les très nombreux tarifs spécifiques qui existent aujourd'hui au niveau international sont très protecteurs à l'encontre des pays les plus pauvres, qui sont les pays qui ont les exportations avec les prix les plus bas. C'est un problème et ceci doit être pris en compte dans les calculs. Enfin, et j'en aurais terminé sur ces aspects un peu techniques et un peu embêtants, mais il faut les avoir entendus une fois, se posent aussi des questions d'agrégation. Il faut savoir qu'il y a 10 000 produits et il faut arriver à agréger 10 000 produits pour arriver à mon chiffre de 4% ou de 12%. Et donc, comment fait-on ? Eh bien, on doit tenir compte de ce que les économistes appellent un biais d'endogénéité. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement du fait que dans les branches où les droits de douane sont très élevés, on n'importe pas. Et donc, si vous pondérez les droits de douane par les importations observées, vous allez sous-estimer beaucoup la protection. Imaginez que vous ayez un droit de douane de 200%, des importations de zéro en face, vous allez faire 0 fois 200% dans votre moyenne pondérée, et ça va faire zéro. Et donc, cette information, vous la perdez complètement. Et donc, ça, c'est un problème très, 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 très difficile à régler. Une fois qu'on a traité tout ça, quelle est l'image que l'on a ? Eh bien, l'image que l'on a, c'est que l'Union européenne n'est pas plus protectionniste que les États-Unis. Alors, pourquoi l'Union européenne n'est pas plus protectionniste que les États-Unis ? Je ne rentre pas dans les détails des chiffres, mais c'est autour de 4% dans les deux cas. C'est de l'ordre de la décimale, simplement, la différence entre les deux pays. Eh bien, l'Union européenne n'est pas plus protectionniste que les États-Unis, tout simplement parce que si l'Union est plus protectionniste sur l'agriculture, ça ne fait aucun doute, l'Union est moins protectionniste sur les industries de main-d'œuvre dans lesquelles les pays en voie de développement ont un très fort avantage. Et donc, d'une certaine façon, l'un compense l'autre. Par ailleurs, l'Union européenne accorde beaucoup plus d'accès préférentiel aux pays plus préférés, les ACP, etc., les PMA, donc les pays les plus pauvres, que les États-Unis. Et donc, tout mis bout à bout, finalement, même si les structures de protection sont différentes entre les États-Unis et l'Union européenne, eh bien, l'Union européenne n'est globalement pas plus protectionniste que les États-Unis. Alors, pourquoi entend-on toujours un certain nombre de pays se plaindre du protectionnisme européen ? Il serait quand même bon de comprendre ça avant Cancun. Eh bien, c'est très simple. L'Union européenne, je l'ai dit, accorde un accès préférentiel aux pays en voie de développement. En gros, les pays en voie de développement, à part l'agriculture, vendent ce qu'ils veulent à peu près à 0%, zéro quota en Europe. C'est aussi simple que ça. Et en tout cas, pour les PMA, les moins avancés, c'est 0% vraiment, à l'exception de trois produits. Ces pays-là considèrent que c'est un dû. Et donc, ils disent, nous, on est pauvres, donc c'est normal qu'on puisse vous vendre à 0% de droits de douane. Et donc, ce n'est pas eux qui vont nous défendre. Et en face, on a qui ? Eh bien, en face, on a les pays qui souffrent de notre protection, notamment dans l'agriculture. Ce sont les pays du groupe Cairns. Le groupe de Cairns, c'est le groupe de pays non européens qui sont de très forts exportateurs de produits agricoles sur le marché mondial. Vous allez trouver l'Australie, etc., ceux qui crient le plus fort. Donc, ces pays du groupe Cairns, évidemment, ils sont très gênés par la politique agricole commune. Et eux ne sont pas préférés. L'Australie n'est pas préférée par l'Europe. Il n'y a pas beaucoup de raisons de considérer que l'Australie est un pays en voie de développement. Et de la même façon, quand on regarde tous les pays qui sont préférés par l'Europe, et qu'on regarde en creux ceux qui ne sont pas préférés, ben on trouve une partie des pays du groupe de Cairns, pas tous, mais on trouve surtout les États-Unis et le Japon. Donc les Américains sont très furieux. Ils disent, regardez, vous préférez tout le monde sauf nous. Ça veut dire que vous ne nous aimez pas. Et donc, d'une certaine façon, ceci est vrai. En matière de structure de la protection, on se protège beaucoup plus vis-à-vis de pays comme les États-Unis que vis-à-vis d'autres pays de niveau de développement équivalent, mais qui sont liés par des accords divers avec nous dans des situations de quasi-libre-échange. Donc, la raison pour laquelle on crie beaucoup sur le protectionnisme européen, c'est que ceux qui effectivement souffrent du protectionnisme européen, eh bien, ont toutes les raisons de le faire savoir. Et ceux qui bénéficient de cette structure très différenciée de notre protection, eh bien, considèrent que c'est un dû et ne crient pas en sens inverse. Voilà donc le schéma général avec lequel on arrive à Doha. ça, en gros, si on voulait dresser un panorama très très rapide de la protection mondiale, ça ressemblerait à ça. J'ajouterais simplement qu'il faudrait parler des services et que dans les services, évidemment, les pays en voie de développement sont très très protectionnistes, ce que nous ne sommes pas. Alors, que peut-on attendre de Doha ou que peut-on attendre de Cancun dans ces situations ? Dans cette situation, ça va être donc la deuxième partie de mon exposé. Alors, je vais commencer par planter le décor, si vous voulez. Planter le décor, ça veut dire regarder d'abord ce dont on va discuter. C'est peut-être bien pour savoir où on va. Donc, ce dont on va discuter, c'est contenu dans la déclaration ministérielle de Doha. C'est une sorte de Bible. Et si l'un des membres de la négociation dit « je voudrais parler de ceci », on sort la déclaration ministérielle de Doha, on regarde si c'est dedans, si ce n'est pas dedans, on dit « non, ce n'est pas possible, il fallait en parler à Doha ». Donc c'est comme ça que ça va se passer à Cancun. Qu'y a-t-il dans cette déclaration ? Tout d'abord, de façon assez curieuse, je vais y revenir, ce qu'on appelle la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'à Cancun, et dans ce cycle, la première chose dont on va parler, c'est de la mise en œuvre du cycle précédent. Je vais y revenir. La deuxième chose dont on va parler, c'est l'agriculture. La troisième, c'est les services. La quatrième, c'est l'accès au marché pour les produits non agricoles. Donc on dissocie la négociation dans l'agriculture de la négociation sur les autres produits. On va parler évidemment des droits de propriété intellectuelle, et c'est là qu'on va rencontrer la question des médicaments. On va parler aussi, parce que les Européens sont très énervés sur ce sujet, des indications d'origine, c'est-à-dire est-ce qu'on peut marquer champagne sur n'importe quelle bouteille de vin. Et enfin, on va parler des sujets commerce et investissement, commerce et marché public, commerce et politique de la concurrence, enfin, du traitement réservé aux pays les moins avancés. Alors, c'est un très vaste agenda, il est clair qu'on ne fera pas du progrès sur tout, ou à des niveaux différents. Et surtout, on peut se demander pourquoi avoir commencé par la question de la mise en œuvre. C'est parce que les pays en voie de développement ne sont pas du tout satisfaits de la façon dont a été mis en œuvre l'accord précédent. Quel était le deal, en fait, à Marrakech, c'est-à-dire quand on a conclu le cycle du Uruguay ? C'était tout simplement de dire aux pays en voie de développement, allez, vous respectez la propriété intellectuelle, vous arrêtez de faire des copies de nos logiciels, de nos parfums, de nos t-shirts, etc. Vous respectez la propriété intellectuelle et nous, on libéralise là où vous avez vraiment un avantage, c'est-à-dire dans le textile habillement. Et ça s'est très mal passé parce que les pays en voie de développement n'ont pas les moyens de respecter la propriété intellectuelle. Ils n'ont par exemple pas les tribunaux pour le faire, tout simplement. Et deuxièmement, de notre côté, nous n'avons pas libéralisé suffisamment ou suffisamment vite le textile habillement. Nous n'avons en gros pas tenu nos engagements. Je vais un petit peu vite, mais c'est l'esprit de ce que pensent les pays en voie de développement. Donc du coup, il faut d'abord discuter de ça avant d'aller plus loin sur les autres sujets. C'est le sens d'avoir la mise en œuvre en tête de cet agenda. Voilà pour la première partie du décor. La deuxième partie du décor, ce qu'il faut savoir, c'est que Cancun, c'est une ministérielle d'étape, ce qu'on appelle une ministérielle à mi-parcours. Et une ministérielle à mi-parcours, ça sert à quoi ? Ça sert à mettre en évidence les différences, hein, les positions stratégiques des uns et des autres. Et donc, évidemment, on ne va pas tomber d'accord sur tout, tout ne sera pas réglé, sinon ça ne serait pas une ministérielle d'étape. Donc, par construction, on va tomber sur des oppositions, on va tomber sur des échecs, on va définir des positions stratégiques. On prévoit de finir tout ça en janvier 2005 au plus tard. La probabilité est non nulle, qu'évidemment, on aille un peu plus loin. En gros, c'est jamais respecté, ces dates-là. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que tant qu'on ne sera pas d'accord sur tout, on ne sera d'accord sur rien. C'est le principe de ces négociations. Donc il faut vraiment que tout le monde, hein, il y a 140 et quelques membres, il faut que tout le monde tombe d'accord sur tout, sinon on est d'accord sur rien. C'est pour ça que ça va être très compliqué. Et cette ministérielle d'étape sert simplement à montrer, à découvrir son jeu d'une certaine façon. Troisième élément du décor, c'est qu'on n'a jamais fait face à des négociations aussi complexes, aussi difficiles. D'abord parce qu'il n'y a jamais eu tant de pays à négocier. Je viens de le dire, il y en a plus que 140. Ensuite, il y a de multiples accords préférentiels, j'en ai déjà un petit peu parlé, qui existent. Et il s'en est rajouté très récemment. Les Européens ont pris des initiatives en faveur des PMA. Les Américains ont pris des initiatives en faveur des PMA. Les Japonais l'ont fait, les Norvégiens l'ont fait. Et donc, il y a une complexité terrible des accords qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et quand on tire sur une ficelle, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Par ailleurs, à cette complexité déjà inhérente au processus, s'ajoute le fait qu'on a parlé de cycle du développement. Il faut que ce soit le cycle du développement. Et donc, il faut qu'on arrive dans toute cette complexité à prendre des mesures qui, en plus, vont être plutôt plus favorables pour les pays en voie de développement. Et donc, gageons que les négociateurs vont devoir faire preuve de beaucoup d'imagination. Alors, quelles sont les propositions sur la table ? Eh bien, les propositions sur la table, c'est en général des propositions très simples, parce qu'on se dit qu'en faisant des propositions simples, on risque peut-être d'avancer. Alors, chaque pays, évidemment, ou chaque groupe de pays est tenté de faire sa propre proposition. Il y en a de nombreuses, mais en réalité, les propositions qui comptent, que les autres pays ne se vexent pas de ce propos, les propositions qui comptent vraiment, c'est la proposition américaine, c'est la proposition européenne, et c'est la proposition de conciliation de l'OMC. Évidemment, proposition de conciliation sur laquelle personne n'est d'accord, a priori, puisque c'est une proposition de conciliation. Donc j'ai dit qu'on distinguait deux dossiers. Il y en a un troisième qui est celui du service sur lesquels ça patine un petit peu, et donc que je vais laisser de côté. Et donc je vais évoquer sur ces deux dossiers quelles sont les propositions américaines, quelles sont les propositions européennes, quelle est la proposition de compromis. Et puis après, dans la dernière sous-partie de mon exposé, on essaiera de chiffrer tout ça. Alors, la proposition américaine, comme un certain nombre d'autres propositions, pardon, s'appuie sur l'idée d'une formule systématique. Quand vous avez 10 000 produits, 140 pays qui négocient, des droits de douane qui partent dans tous les sens, comment faire, sauf à utiliser un très très gros ordinateur et à introduire des formules dedans qui vont tourner toutes seules et qui vont vous donner le résultat. C'est très exactement ce que proposent beaucoup, c'est beaucoup plus simple. Et cette formule s'appelle la formule suisse. Ne cherchez pas pourquoi elle s'appelle la formule suisse, c'est tout simplement parce que cette formule a été découverte à l'occasion du cycle qui s'appelle le cycle de Tokyo. Donc, je vous laisse continuer l'histoire. Alors, cette formule suisse, c'est tout simplement une formule non linéaire. Une formule non linéaire, c'est une formule qui va diminuer plus les droits de douane qui sont les plus élevés. On dit que ça écrète les pics tarifaires. L'image est belle, on écrète les pics. Donc c'est exactement ce qu'on fait avec une formule suisse. Voilà pour le point technique. La proposition américaine, elle est très simple. Les Américains, eux, ils veulent un monde sans tarifs. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Un monde sans tarifs. Donc élimination de tous les droits d'abord qui sont les petits droits, qu'on appelle les droits de nuisance, c'est-à-dire ceux qui gênent un petit peu le commerce sans vraiment protéger, et donc qui sont des droits, dans la proposition américaine, inférieurs à 5%. Donc on supprime déjà tout ce qui est inférieur à 5%. Ensuite, on définit un certain nombre de secteurs prioritaires. Je vous fais grâce de la liste, il y a les bicyclettes et d'autres choses dedans. Donc on définit un certain nombre de secteurs prioritaires pour l'économie mondiale, et sur ces secteurs prioritaires, on dit zéro pour zéro. C'est je te donne, tu me donnes. Et donc là, c'est zéro tout de suite. Et ensuite, on utilise une fameuse formule suisse, donc qui va écréter les pics et qui va ramener les droits maximum, pour le manufacturer toujours, à 8%. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus dans le monde de droits sur les manufacturés supérieurs à 8% en 2010. Et comme ça ne suffit pas pour être dans un monde sans tarifs, deuxième couche de 2010 à 2015, on supprime tout ce qui reste, les 8% maximum, on supprime tout ce qui reste de façon linéaire sur les 5 dernières années. Ça, c'est la proposition américaine. La proposition européenne est un petit peu plus modeste, notamment parce qu'on se dit que les pays en voie de développement accepteront jamais ça. Pour les pays en voie de développement, les droits de douane, c'est très souvent la seule recette fiscale. C'est des pays qui n'ont pas de TVA parce qu'on ne sait pas la lever, c'est tellement désorganisé quand les pays sont pauvres. C'est des pays qui n'ont pas de base fiscale en termes d'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, n'en parlons pas. Donc c'est des pays qui n'ont que les droits de douane pour financer leur budget. Et donc, évidemment, ils ne veulent pas revenir à zéro pour cette bonne raison. Alors la proposition européenne dit la chose suivante. Les droits tout petits, les droits de nuisance, on va les supprimer aussi. Sauf que nous, on dit 1,25 au lieu de 5. Donc c'est pas la même conception du petit. Et ensuite, on a un système de bandes qui est un petit peu compliqué, un système de bandes tarifaires. Donc on définit des bandes, et à l'intérieur de ces bandes, on a un mécanisme de compression. Je vous passe les détails techniques qui n'ont pas d'importance. Le point qu'il faut retenir, c'est que où les Américains arrivent à un maximum de 8%, nous arrivons à un maximum de 25%. Donc le processus est le même, on écrète, mais on écrète beaucoup moins. Et ce que dit l'Europe, c'est pour finir que sur les produits qui sont des produits intéressants pour les pays en voie de développement, il faut faire zéro et on n'en parle plus. L'Europe le dit puisqu'elle l'a déjà fait. Alors, la proposition américaine sur l'agriculture, C'est la suivante. On élimine les subventions aux exportations. Ça, c'est contraire à la ministérielle, donc ça ne passera jamais. À Doha, on a dit qu'on allait les diminuer dans la perspective de leur élimination future. Mais ça veut dire qu'on ne les élimine pas. On va baisser les tarifs dans l'agriculture avec une formule suisse, avec un tarif maximal de 25%. Et on diminue le soutien interne. Le soutien interne à l'agriculture, lorsqu'il est distorsif. Alors ça, je n'en ai pas encore parlé, je suis obligé de m'arrêter une seconde. Le soutien interne à l'agriculture, il peut être plus ou moins distorsif. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on est content d'avoir des vaches dans les champs, mais il ne faut pas que ça gêne les autres. Donc comment est-on plus ou moins distorsif? Si vous payez l'agriculteur pour sa production d'élevage, c'est très distorsif. Si vous payez l'agriculteur pour utiliser des terres pour faire de l'élevage, ça l'est un petit peu moins. Et si vous payez l'agriculteur pour entretenir simplement les terres sans nécessairement produire, ça ne l'est pas du tout. Et donc, c'est ce qu'on appelle le système des boîtes. Selon que la mesure est plus ou moins distorsive, elle va rentrer dans différentes boîtes. Il y a la boîte rouge qui n'existe pas parce qu'elle est interdite, donc par définition, il n'y en a pas. Il y a la boîte orange qui est très mal. Il y a la boîte bleue qui est encore ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a la boîte verte où on fait ce qu'on veut. Et donc, par exemple, si vous donnez de l'argent aux agriculteurs pour protéger l'environnement, c'est dans la boîte verte. Et ça, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Donc, ce que veulent les Américains, c'est qu'on diminue très fortement le soutien interne pour tout ce qui n'est pas la boîte verte, tout ce qui reste distorsif. La proposition européenne dans l'agriculture, c'est d'ouvrir tout pour les pays les plus pauvres, tout d'abord, même politique. Ensuite, de baisser les tarifs, mais dans une proportion beaucoup moindre que les États-Unis. De supprimer les subventions à l'exportation simplement pour quelques produits qui sont des produits sur lesquels les subventions à l'exportation des pays riches gênent les pays en voie de développement. Et enfin, une remise en ordre de l'aide alimentaire. Ça, c'est une position stratégique de l'Union européenne. Les Américains utilisent beaucoup l'aide alimentaire pour écouler leurs excédents. Eh bien, on leur dit, vous voulez libéraliser l'agriculture, top là, vous avez déjà commencé par l'aide alimentaire. Donc, ils sont très embêtés. Et donc, baisse du soutien interne, exactement comme les Américains, du soutien interne distorsif de 55%. Alors, les propositions de compromis, il y en a deux. Il y en a une pour l'agriculture, une pour le manuf, hein, le manufacturé, sans surprise. Celle sur l'agriculture s'appelle Arbinson. Vous en avez peut-être entendu parler parce que tout le monde a crié après Arbinson. Il y en a eu deux versions successives, la deuxième étant un petit peu plus nuancée. Et celle sur l'agriculture s'appelle la proposition Girard. Dans les deux cas, Arbinson ou Girard, c'est évidemment les deux personnes qui ont proposé ça à l'OMC. Alors la proposition Girard, pour commencer par elle, eh bien, c'est une formule suisse, mais qui est très atténuée par rapport à la solution américaine. Par ailleurs, cette proposition Girard adopte une approche sectorielle. Elle dit qu'il y a des produits qui sont importants pour le commerce international parce qu'ils sont importants pour les pays en voie de développement. Et donc, sur ces produits, il faut avoir une approche zéro pour zéro. La question qui se pose, c'est de savoir pourquoi les automobiles se trouvent dans cette liste, mais c'est une autre question. L'agriculture, maintenant, eh bien, c'est la proposition Arbinson. Et donc, la proposition Arbinson vous dit... Je prends juste un exemple pour bien faire comprendre l'idée. On ne va pas utiliser une formule suisse, mais quand les droits de douane dans l'agriculture sont supérieurs à 90%, on prend un produit, on trouve 90% ou plus de droits de douane. À ce moment-là, il faudra réduire ces droits de douane de 60%. 60% de 90%, je vous laisse faire les calculs. Et si ces droits de douane sont entre 15% et 90%, il faudra les réduire de 50%. Donc vous voyez, c'est quand même des réductions assez fortes. Mais ce n'est pas des réductions qui sont du type formule suisse. Il y a d'autres mesures techniques sur lesquelles je ne reviens pas. Et surtout, sur les soutiens internes, cette proposition Arbinson propose de réduire de 50% ce qui est dans la boîte bleue et de 60% ce qui est dans la boîte orange. Et je ne parle pas de la boîte rouge, puisque c'est interdit, donc il n'y a rien dans la boîte rouge. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre comme ordre de grandeur de gain de ces négociations ? Il y a ici une difficulté importante, c'est que s'agissant d'un processus de libéralisation qui concerne l'ensemble des pays du monde, ou presque, il y a plus que 140 pays dans le monde, mais enfin le gros des troupes est là, l'ensemble des secteurs, et si on veut prendre en compte l'ensemble des interactions qui existent entre les différents marchés, entre les différents prix, entre les différentes catégories de revenus, ça devient très compliqué à modéliser. Repensez à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous libéralisez le textile. À ce moment-là, vous allez faire baisser les prix du textile dans les pays industrialisés. À ce moment-là, vous allez réduire le salaire non qualifié parce que, tout simplement, l'industrie textile est plutôt intensive en salaire non qualifié. Et donc, ceci va avoir des effets en retour sur, etc. Donc, vous voyez, c'est très, très compliqué. Et donc, pour travailler sur ces questions, les économistes utilisent ce qu'on appelle un modèle d'équilibre général calculable. Modèle d'équilibre général, c'est ce que je viens de dire, il faut tout prendre en compte, toutes les interrelations. Et modèle, parce que c'est une grande maquette de l'économie mondiale, dans laquelle il y a tous les secteurs, tous les pays du monde, hein, des différentes catégories de travail, etc. Et calculable, tout simplement, parce que, évidemment, vous ne pourriez pas calculer ça, et c'est des gros ordinateurs qui le font. Alors, bien entendu, dans ce type d'entreprise, tout le monde sait bien que les résultats dépendent en partie des hypothèses, en partie des méthodes, mais quand même, il y a tellement d'économistes dans le monde maintenant qui font ce genre de choses pour les organisations internationales, que la partie du résultat qui est due aux hypothèses, on la connaît, et donc c'est relativement bien balisé. Alors, les principes généraux de ce type de modélisation et le type de résultat qu'on obtient dans toutes les études, tout d'abord, avant de parler de ce cycle-là. Le premier résultat que l'on obtient, c'est que les effets sont globaux et souvent inattendus. C'est-à-dire qu'une politique interne dans un pays va pouvoir avoir des effets sur les conditions de rémunération, sur les conditions de prix, de pauvreté, dans un autre pays, quelquefois à l'autre bout du monde. Et donc, les effets sont globaux. Quand vous décidez d'une politique, ça peut avoir des effets à l'autre bout du monde. Ça, c'est le premier point à retenir. Deuxième point à retenir, ce qui ressort systématiquement, c'est aussi que les pays gagnent d'abord à leur propre libéralisation, à la libéralisation de leur propre marché. C'est donc tout à fait différent d'une approche mercantiliste. Les négociateurs qui vont à Cancun, eux, ce qu'ils veulent, c'est l'ouverture des marchés étrangers. C'est des mercantilistes, d'une certaine façon. Mais ce que vous disent les économistes, c'est autre chose. Ce que disent les économistes, c'est que vous gagnez d'abord à la libéralisation de votre propre marché. Et de la même façon, si on doit découpler la PAC, comme on l'a fait, eh bien on va gagner d'abord, nous, au découplage de la PAC, en termes d'efficacité. Autre point qui ressort systématiquement, les gains varient avec le carré du tarif, donc ça je l'ai déjà dit, je n'y reviens pas. Autre point, les gains statiques, c'est-à-dire ceux qui arrivent tout de suite, demain. Les gains statiques sont très petits. Le pourcentage du PIB, du produit intérieur brut correspondant au gain statique, il est ridicule. Il faut donc compter sur les effets dynamiques, c'est-à-dire ceux qui mettent du temps à venir. Et quelquefois, il faut 5, 6, 9 ans avant que les effets bénéfiques l'emportent sur les effets transitoires de coûts dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a une dynamique très très subtile entre les coûts d'ouverture et les bénéfices d'ouverture. Et il est tout à fait possible que pendant la première année vous perdiez, mais qu'ensuite vous gagnez et que les gains cumulés l'emportent très largement sur les pertes temporaires. Autre point, les pays en voie de développement gagnent beaucoup plus en pourcentage de leur PIB dans ces exercices que les pays industrialisés. Ça peut paraître surprenant. La réponse n'est pas que c'est parce qu'ils sont plus pauvres, puisque précisément on calcule en pourcentage de leur produit industriel, de leur produit intérieur brut. La réponse, c'est que les pays en voie de développement sont généralement plus protégés. Et comme on gagne d'abord à la libéralisation de son propre marché, s'ils libéralisent autant que les autres, ils gagnent plus. Autre point, si on se limite aux gains statiques, qui sont petits et dont je parlais tout à l'heure, eh bien les gains statiques à obtenir les plus élevés sont dans l'agriculture. Pourquoi ? Parce que l'agriculture est un secteur à rendement constant. Et donc, il n'y a pas de gains dynamiques dans l'agriculture. À l'opposé, les gains dynamiques sont situés, évidemment, dans l'industrie. Toujours sur l'agriculture, si vous libéralisez l'agriculture, et ça, c'est un point qui est très important pour les positions françaises dans les négociations, et donc les positions européennes, si vous libéralisez l'agriculture, les bénéfices sont limités pour les pays en voie de développement pris dans leur ensemble. Je le répète pour être sûr d'être bien compris. Les bénéfices sont limités pour les pays en voie de développement pris dans leur ensemble. Certains gagnent beaucoup, ce sont les exportateurs nets, mais d'autres vont perdre, ce sont les importateurs nets, c'est-à-dire ceux qui vont supporter le coût d'une augmentation des prix mondiaux des denrées dont on a libéralisé le commerce. Donc, en tant que groupe, les pays en voie de développement ont beaucoup plus intérêt à la libéralisation du manufacturé qu'à la libéralisation des produits agricoles. Et le premier intérêt qu'ils ont, c'est la libéralisation du cuir, chaussures, textiles, habillements. Et ça n'est pas pour rien qu'on retrouve en tête de l'agenda de la ministérielle la mise en œuvre de l'accord précédent qui précisément prévoyait cela en partie. Et enfin, dernier résultat, les gains sont beaucoup plus importants si on réduit plus fortement les pics tarifaires. Et ça c'est logique puisque les gains sont d'autant plus grands que les niveaux de tarifs sont élevés. Alors voilà tout ce qu'on obtient généralement. Vous savez maintenant quelle est toute la complexité de l'exercice, quelle est toute la complexité de la mesure elle-même de la protection. Et je vais vous donner quelques ordres de grandeur qui sont des ordres de grandeur raisonnables et qui correspondent à une formule acceptable, entre guillemets, dans les négociations par tout le monde. C'est-à-dire on a essayé de se faire une idée au CEPI de ce qui serait acceptable par les pays et on a essayé de voir en termes d'accès au marché pour l'ensemble des produits agricoles et manufacturés vers où on pourrait aller. Et ce vers quoi on pourrait aller pourrait ressembler à ceci. Pour les produits qui sont des produits ne correspondant pas à des pics tarifaires, eh bien, nous pensons qu'une réduction moyenne de 35% est quelque chose de raisonnable. On devrait aller vers ça. Après, il faut définir les pics. Et là, pour définir les pics, on a fait comme tout le monde. On a dit les pics, c'est 15% dans le manufacturé, 85% dans l'agriculture. Et au-delà des pics, à partir des pics, c'est-à-dire à partir de 15% dans le manufacturé et à partir de 85% de droits de douane dans l'agriculture, on écrase avec une formule suisse. Et, dernier point, nous offrons aux pays en voie de développement la possibilité d'avoir une réduction de leur protection plus faible, tout simplement parce qu'ils ont besoin de garder une certaine forme de protection pour leur, au moins pour leur budget public. C'est ce qu'on appelle le traitement social et différencié, ou en tout cas, c'en est une partie. Alors, ce travail a été fait au CEPI avec des co-auteurs, et nous obtenons les gains suivants, qui sont des gains de moyen terme, une fois que les effets coûts et avantages se sont un petit peu soldés. Alors, ces gains de moyen terme sont les suivants. De combien augmenterait le commerce si on s'entendait à Cancun sur une solution de ce type? Le commerce mondial augmenterait d'environ 8%. Donc l'ordre de grandeur, si on va vers une solution qui est raisonnable comme celle-là, c'est 8% de commerce mondial en plus. 8% de commerce mondial en plus, c'est quoi? C'est ce que dans les bonnes années, on gagnait en une année. D'accord? Donc ça veut dire que c'est ce qu'on gagne normalement dans une année faste. Quand vous avez une année de faste de croissance au niveau mondial, vous gagnez 8-9% de commerce. Donc on gagnerait une année de commerce. Après, je vous laisse imaginer si c'est beaucoup ou peu. Généralement, les organisations internationales, contre lesquelles je n'ai rien, mais c'est un objet de communication quelquefois quand même un petit peu dangereux, donnent les résultats en milliards de dollars. Donc si je vous disais 8% du commerce international en mettant en face le chiffre du commerce international en milliards de dollars, ça ferait évidemment des sommes très très impressionnantes et vous seriez convaincus du bien fondé de tout cela. Alors, les écarts que nous avons en matière de commerce sont très importants. C'est-à-dire que, par exemple, le commerce américain augmenterait de 5-6% et le commerce de l'Asie en développement augmenterait d'environ 13%. Donc vous voyez que selon les zones, en fonction des formules, ça peut être très très différent. Mais le commerce, ça n'est pas bon en soi. Ça n'a aucun intérêt d'exporter, d'importer. Ce qui est intéressant dans l'exportation et l'importation, ce n'est pas le fait de commercer. Ce qui est intéressant, je l'ai dit, c'est d'avoir plus d'efficacité, d'avoir des meilleurs prix, d'avoir plus de variété. Et tout ça, les économistes le résument dans un terme qu'ils aiment bien et que ceux qui les lisent n'aiment pas beaucoup, c'est le terme de bien-être. Parce qu'évidemment, ce que les économistes mettent dans le bien-être, ça n'est pas forcément ce que tout le monde y mettrait. Par exemple, nous ne mettons pas, à ce stade, l'environnement ou le loisir dans le bien-être. Bon. Donc, ce bien-être est quand même un bien meilleur indicateur de ce qui va se passer que le strict PIB. En matière de bien-être, pour le monde, ça représente 0,5% de bien-être. Alors, 0,5% de bien-être mondial, c'est un chiffre évidemment gigantesque, hein, si je vous mets des dollars en face, mais ça représente ça. Pour l'Union européenne, ça fait la même chose, 0,5% à peu près. Pour les États-Unis, en gros, 0,1%. Pour le Japon, 1,3%. Et je pourrais continuer l'énumération. On a parlé de l'Asie en développement. Continuons donc en parlant de 0,9% pour l'Asie en voie de développement. Alors, ces chiffres paraissent petits. Ces chiffres paraissent petits. Et en général, on nous fait la remarque que ces chiffres sont effectivement très modestes. Mais c'est les mêmes chiffres qu'on trouve dans les autres études. Ce n'est pas le CEPI qui a trouvé ça, je veux dire. Tout le monde trouve ça, à peu de choses près. En réalité, le point qu'il faut retenir, c'est que s'ajoute à ceci la baisse du soutien interne. des activités, donc la baisse des subventions de différentes formes. Et la baisse des subventions, si on la modélise exactement comme la proposition Arbinson, ce qu'on a fait aussi au CEPI, donc on a modélisé la proposition Arbinson, eh bien, on arrive à des ordres de grandeur qui ne sont pas énormes. Pour l'Union européenne, qui est le pays qui gagne le plus dans cette affaire, on gagne encore 0,5% de bien-être en plus. Mais au niveau du monde, ça fait simplement 0,2% de bien-être en plus, la proposition Arbinson. Et pourquoi ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a des pays qui gagnent, des pays en voie de développement, d'autres qui perdent. Et parmi ceux qui perdent, il y a notamment les pays ACP. Et pourquoi les pays ACP perdent ? Eh bien, tout simplement, déjà parce que ces pays importent beaucoup de nourriture, et puis et surtout parce que ces pays étaient dans une situation d'accès très privilégié au marché européen. Et donc, si vous libéralisez, ceux qui étaient plus préférés le deviennent relativement moins, si vous préférez plus tout le monde. Et donc, cet avantage préférentiel dont ils disposaient s'érode, et cette érosion est quelque chose qui est négatif pour eux. J'ai donc épuisé mon temps de parole et j'avais commencé en rappelant la perception de ces négociations par la société civile. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la progression sur l'agenda large et sur les questions fondamentales qui sont posées sur la société civile, eh bien cette progression dans ce cycle sera probablement limitée, en dehors probablement, en tout cas à Cancun, en dehors du progrès sur les médicaments, qui va être fait sur les médicaments, où là, il y a des questions morales qui se posent, qui ne pourront pas être contournées bien plus longtemps. Mais par définition, on ne pourra pas aller plus loin que ce qui est dans l'agenda défini à la ministérielle de Doha. Donc ça n'est pas non plus la peine de nourrir des ambitions trop considérables. Nous n'irons pas plus loin sur les questions sociales, de toute façon, les pays en voie de développement n'en veulent pas. Nous n'irons pas plus loin sur la hiérarchie des normes, tout simplement parce que d'abord, il n'existe pas d'organisation mondiale de l'environnement. Donc comment trier entre ce qui relève des requêtes de l'Organisation mondiale de l'environnement et ce qui relève des requêtes de l'Organisation mondiale du commerce? Il n'y a pas d'Organisation mondiale de l'environnement. Donc nous avons un système multilatéral qui reste d'une certaine façon incomplet. Donc les enjeux, d'une certaine façon, sont ailleurs. Ce n'est pas les enjeux sur lesquels on a peur, ce n'est pas les enjeux sur lesquels on s'interroge. Les enjeux sur lesquels on travaille techniquement dans ces négociations, c'est, je l'ai dit, la question des pics tarifaires, s'occuper donc des droits très très élevés. C'est la question des préférences commerciales, le fait que certains pays qui étaient très préférés vont le devenir moins et que pour eux c'est peut-être très embêtant. La question des soutiens internes agricoles, qu'il est absolument nécessaire de découpler, et c'est bien la raison pour laquelle on l'a fait par avance à l'Union européenne, dans l'Union européenne. C'est pour arriver dans de meilleures positions à la discussion. On doit retenir aussi l'impact différencié sur les PVD. Il y a des PVD qui vont bénéficier beaucoup de cette libéralisation, d'autres un peu moins, et d'autres éventuellement qui pourraient se trouver dans une situation négative. Pour finir, je n'ai toujours pas répondu à la question pourquoi les gains sont-ils modestes et que faut-il en penser ? Eh bien, il faut en penser déjà que les économistes sont des gens sérieux. C'est-à-dire, bien qu'ils pensent que la libéralisation est une bonne chose, ils n'arrivent pas devant le public en annonçant des gains mirifiques. Donc ça, c'est le premier point. Nous sommes des gens sérieux. C'est ce dont je voulais vous convaincre. Le deuxième point, c'est qu'en réalité, et cela est dit beaucoup plus souvent, les gains que nous obtenons sont modestes. Mais les pertes que nous risquerions d'encourir si nous arrêtions de négocier et si nous tombions dans des guerres commerciales, comme certaines se sont dessinées sur l'acier, par exemple, là, il y aurait énormément à perdre. Donc les gains que l'on attend sont modestes, mais les pertes qui correspondraient à sortir de ce système multilatéral et à retourner vers l'unilatéralisme seraient très importantes. Et les pertes seraient d'autant plus importantes que les pays ont un pouvoir de négociation faible. Et donc l'Union européenne s'en sortirait toujours, parce que quand l'Union européenne tape sur la table, c'est un grand marché et ça marche. Mais quand vous êtes un tout petit pays, quand vous êtes le Venezuela et que vous êtes en face des États-Unis et que vous voulez protester contre une mesure d'interdiction des exportations d'essence, eh bien, s'il n'y a pas l'OMC, vous ne pouvez pas le faire. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, me semble-t-il, les enjeux de cette négociation.
Oui, plus je vous entends, plus je pense qu'il y a urgence à se révolter contre l'hégémonie de la logique économique. L'OMC, ça me semble être l'organisation d'un marché de dupes. Je prendrai trois exemples sans les développer. L'expatriation de la production, le marché du bois et la faillite d'États comme l'Argentine. Je suis un citoyen, je suis un consommateur. Par quel vecteur ai-je mon mot à dire dans ce qui se décide sur mon dos ? Par quel vecteur les États dits en développement ont le moyen de mettre sur le tapis leur point de vue ? Vous avez mentionné les deux options qui viendront à Cancun, c'est l'option américaine et l'option européenne. L'Europe, à ma connaissance, n'est pas le représentant des autres pays exotiques. Le dernier exemple que je voudrais prendre, c'est qu'il me semble que l'OMC fonctionne un peu comme ce cycle de conférences. C'est-à-dire qu'on nous balance un message, une propagande, l'OMC, ça va de soi, il faut faire avec, et on nous le vend. Et moi, je dis, il n'y a de possibilité de s'en sortir que s'il y a confrontation entre des logiques différentes, et il y a d'autres logiques que cette logique économique. Et je voudrais donner un exemple pratique, une information pratique. Les alternatives de Puerto Alegre ont décidé d'avoir une confrontation au niveau continental. La prochaine sera à Paris en novembre. Et chacun, dans ce système de fonctionnement, peut y mettre son grain de sel, y compris dans l'organisation dès maintenant. Et ceux que ça intéresse, et on suppose qu'ici, des gens sont intéressés par la mondialisation ou l'altermondialisation, peuvent contacter les services d'information de la mairie de Paris, puisque la mairie de Paris est impliquée dans cette organisation. Et il y a des séances les samedis à Saint-Denis qui permettent, sur différents sujets, de mettre sur le tapis ce que nous, population, nous, citoyenneté, ne pouvons jamais dire. Et il serait temps que ça change.
Bon, merci de votre intervention. J'attendais ce type d'intervention en venant ce soir et je suis content qu'on commence par là. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Tout d'abord, je pense avoir donné une vision assez pondérée de l'ouverture. C'est ce que je disais pour finir. Même si globalement les économistes ont le défaut de penser que l'ouverture est plutôt une bonne chose en général, même si elle a beaucoup d'inconvénients qu'il faut traiter. Certains le pensent avec des degrés divers. Et certains sont de plus grands turiféraires de l'OMC que je ne suis moi-même. Alors, pour autant, je pense que la critique sur l'OMC est une critique assez injuste. C'est ce que j'ai essayé de dire en introduction. Alors, il y a deux éléments dans cette critique. Est-ce que l'OMC sert à quelque chose ? Et ensuite, est-ce que l'OMC est démocratique, en gros ? Est-ce qu'elle reflète la vision des citoyens ? Alors, est-ce que l'OMC sert à quelque chose ? À l'évidence, oui. Je l'ai un petit peu dit. L'OMC est le seul lieu où vous avez des panels qui vont examiner des plaintes qui sont déposées par des pays, qui sont des pays qui peuvent être de petits pays, des pays sans importance sur la scène mondiale d'une certaine façon, et qui vont lancer des panels et qui vont attaquer de grands pays, les États-Unis, l'Europe, en faisant valoir ce qu'ils estiment être leurs droits et en faisant valoir les difficultés que rencontrent leurs exportateurs pour accéder à un certain nombre de marchés de grande taille, tout simplement parce que ces marchés de grande taille ont adopté des politiques tout à fait unilatérales, décidant que telle norme allait s'appliquer, etc. Donc, sur ce point, je pense vraiment que l'OMC sert à quelque chose et que c'est un point essentiel du dispositif international. Alors, est-ce que la façon dont fonctionne l'OMC est idéale ? Elle ne peut l'être, évidemment. Elle a probablement déjà été améliorée dans le cycle de négociation actuel par rapport à Seattle. Alors, est-ce que l'OMC est démocratique ? L'OMC n'est rien. Il faut bien comprendre que l'OMC n'est rien. L'OMC est simplement la réunion autour d'une table de représentants des différents pays qui, de leur plein gré, ont décidé d'adhérer à ce club. L'OMC est un grand club et les membres de ce club se retrouvent de façon régulière entre eux pour discuter de la libéralisation des échanges entre eux et des sujets dits connexes. Que font ces représentants ? J'ose supposer que ces représentants représentent effectivement leurs électeurs. J'espère que le représentant de tel ou tel pays, lorsqu'il propose des avancées, lorsqu'il négocie des positions au sein de ce club représente effectivement son pays. En tout cas, si jamais ce négociateur ne représentait pas les intérêts de la représentation nationale, les intérêts démocratiques de son pays, ça n'est pas la faute de l'OMC d'une certaine façon. Donc, je pense que l'OMC n'est rien d'autre que ce club, et ensuite, on discute au sein de ce club de la libéralisation. L'OMC n'est pas non plus tentaculaire. Il faut voir que le staff d'économistes de l'OMC est tout petit. Le staff d'économistes de l'OMC est tout petit, si vous le voyez, c'est totalement ridicule. Les gens qu'il y a là-bas sont très bons, mais ils sont en très petit nombre. Et ce n'est pas eux qui font toutes les études dont on parle, eux s'occupent de choses très très concrètes. Par ailleurs, l'OMC a un budget tout petit. On rappelle généralement que l'OMC a un budget qui est inférieur au budget de mission du FMI. Donc comment voulez-vous qu'une organisation qui a un budget aussi petit se retrouve dans une situation d'infléchir les directions de l'économie mondiale ? Donc l'OMC accompagne plus qu'elle n'initie d'une certaine façon. Alors ce qui n'empêche pas évidemment que la contestation des décisions prises à l'OMC est tout à fait légitime. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, au niveau européen, une discussion est engagée depuis longtemps avec les ONG. Il y a un certain nombre, vous le savez comme moi, d'ONG qui sont accréditées, qui vont pouvoir aller là-bas, qui ont eu déjà l'occasion de débattre avec les représentants de la Commission européenne sur ces sujets. Je dis toujours Commission européenne puisqu'il se trouve que c'est un des rares domaines dans lequel l'Europe se présente unie. C'est un domaine dans lequel on a une politique commune. Et donc c'est bien l'Europe qui négocie, ça n'est ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, c'est l'Europe, sur la base de mandats qui sont donnés par les pays membres. Donc je pense que l'OMC, par définition, ne peut pas souffrir de déficit démocratique, tout simplement parce que ça n'est pas l'objet, c'est simplement une réunion de pays membres qui discutent. Quant au point que vous avez évoqué sur les options qui ont été discutées, il faut bien comprendre que ce n'est ni l'option américaine, ni l'option européenne qui seront adoptées. Par définition. Ce qui sera adopté, c'est un compromis entre ces positions-là et d'autres positions. Compromis qui prendra en compte les desiderata des pays en voie de développement. Je l'ai dit, tant qu'on n'est pas d'accord sur tout, on est d'accord sur rien. Et pourquoi on a échoué à Seattle ? On ne va pas rentrer dans les détails. Eh bien, parce qu'on n'était pas d'accord sur un point précis. Et il se trouve qu'il y avait notamment un pays en voie de développement qui n'était pas d'accord sur ce point précis. Ben ça, ça peut faire échouer, ce qui montre que le processus de discussion est tout à fait ouvert. Dernier point, mais ça, c'est un petit clin d'œil méchant. Je ne parle pas de pays exotiques quand je parle des pays en voie de développement.
Vous apparaissez convaincu du bien fondé des négociations donc à l'OMC en ce qui concerne les accords sur les marchandises. Vous avez qualifié de la démarche libérale d'inachevée. Je la qualifierais d'inachevante puisqu'elle n'a pas terminé d'achever, à mon sens. Notamment sur les prochaines négociations, dont l'enjeu ne sera pas économique, comme le titre de la conférence de ce soir le dit, mais bien plus social ou humain, puisque ce sera des négociations sur, non plus des accords sur les marchandises, mais sur les services, à savoir la santé et l'éducation. Donc, monsieur, vous étiez convaincu de ce bien fondé sur les marchandises. L'êtes-vous sur ce bien fondé, sur ce caractère profitable, sur des services, tels l'éducation ? Je ne veux pas parler de la santé, j'imagine que c'est bien trop compliqué. Donc, sur l'éducation, faut-il continuer à poursuivre cette course effrénée, à mettre une étiquette, une concurrence sur toutes les choses, tous les éléments sur cette terre, où on peut en apposer une.
Bien, alors je ne rebondis pas sur les mauvais jeux de mots ou les jeux de mots inachevés. Simplement, les enjeux sociaux et humains. Vous parlez de la négociation sur les services. Il faut bien comprendre que la négociation sur les services, et je n'élude pas la question de l'éducation et de la concurrence dans l'éducation, j'y viens. La négociation sur les services, ça marche par le principe des propositions. C'est-à-dire chaque pays arrive, ou chaque groupe de pays, puisque l'Europe est un groupe de pays, chaque pays arrive et fait des propositions. Voilà. Et ben, si vous ne voulez pas que l'éducation soit libéralisée, vous ne mettez pas l'éducation dans les propositions. Donc c'est très démocratique. Si vos représentants considèrent que l'éducation n'a pas à être dans ces propositions, eh bien on n'en discute pas, c'est aussi simple que ça. Si vous préférez mettre le tourisme, mettez le tourisme. Si vous voulez mettre la banque, mettez la banque. Si vous voulez mettre la culture, mettez la culture. Mais si vous ne voulez pas mettre la culture, ne mettez pas la culture. Rien ne vous y empêche. C'est un système de proposition. C'est toute la différence avec le système des formules qui sont appliquées pour les biens et qui, là, s'appliquent à tout, ou presque à tout. Il y a de petites exceptions pour les pays en voie de développement. Il y a des petites choses techniques, mais... Globalement, cette espèce de rouleau compresseur, hein, pour regarder cette image qu'on a pour les biens, eh bien, on ne l'a pas sur les services. Et très précisément, dans la situation actuelle, les propositions qui ont été faites sur les services sont des propositions à caractère timide. Donc, c'est peut-être une bonne chose. Je pense que vous pensez que c'est une bonne chose. Mais en tout état de cause, ça montre que c'est relativement préservé. Alors, est-ce que maintenant, je pense qu'il faut négocier sur les services ? Je pense qu'il faut négocier sur les services, oui. Je pense qu'il y a peut-être des limites à la négociation sur les services, c'est-à-dire qu'il y a un certain moment où on va toucher, on va tomber sur ce qui relève vraiment de différences de préférences collectives. Et le moment où on va y arriver, c'est très bientôt. Le moment où on va y arriver, là, on va être obligé d'arrêter de négocier. Et la position qu'il va falloir adopter à ce moment-là, c'est de dire, sur ce point-là, je ne bougerai pas. Quitte à donner des compensations ailleurs, mais sur ce point-là, je ne bougerai pas. Et si on ne veut pas bouger sur l'exception culturelle, pour reprendre un point simple, si on ne veut pas bouger sur l'éducation, ça ne pose aucune difficulté. Il suffit d'arriver et de dire ben, on ne bougera pas sur l'éducation. Point. Et personne ne vous poussera de là, tout simplement parce que ça n'est pas dans votre proposition. Plus généralement, est-ce que la concurrence dans l'éducation est une bonne chose ? Vous demandez ça à un universitaire. Il a été rappelé mes fonctions... dans une université parisienne, je pense que, indépendamment de toute négociation à l'OMC, ça n'a pas besoin de passer par l'OMC, je pense que la concurrence entre les universités, non pas en France, mais au niveau européen, est une bonne chose. Et de toute façon, même si on n'en veut pas, elle est déjà là.
Je voulais poser une question sur l'accord général, sur la commercialisation des services, parce que je trouve que vous avez évité ce thème-là, qui est un des enjeux importants des négociations qui se tiennent à l'OMC, et vous venez de répondre à la question. Mais peut-être que vous pouvez nous rappeler le contenu de l'accord, quand est-ce qu'il a été créé et quand est-ce qu'il va être finalisé.
Bon, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails techniques de l'accord. Le principe, c'est donc que c'est un principe de liste hein, qu'on soumet. Et l'idée de cet accord, c'est de mettre pour les services exactement les mêmes principes que pour le GATT, qui est à l'intérieur de l'OMC, la partie qui s'occupe des biens. Et ces principes sont ceux de non-discrimination, etc. La difficulté pour les services, et ça supposerait un exposé à soi seul, c'est qu'il y a différentes modalités de fourniture de services. Vous pouvez fournir des services en les exportant, vous pouvez fournir des services en déplaçant le consommateur, vous pouvez fournir des services à l'étranger en investissant à l'étranger, vous pouvez fournir des services en accueillant sur votre territoire de façon temporaire des travailleurs étrangers. Et donc il y a quatre modes de fourniture des services et des discussions très compliquées autour qui n'avancent pas. Il se trouve que l'Europe, sur ce point, a fait une proposition qui me semble, moi, très intéressante, qui est sur le mode de fourniture des services consistant à ouvrir nos frontières à des travailleurs des pays étrangers, donc notamment pays en voie de développement, qui veulent venir offrir leurs services, au sein de l'Union européenne pour un temps limité. Ça n'est pas du tout exclusif d'une politique intelligente de l'immigration, que j'appelle par ailleurs de mes voeux, mais ça n'est pas le sujet de ce soir. En tout état de cause, là, l'Union européenne, vis-à-vis des pays en voie de développement, a certainement marqué un point important.
Merci Lionel Fontanier.